Et bonjour à tous, bienvenue dans le Paris Central Show. On se retrouve aujourd'hui avec notre invité habituel, Zedrias, qui est Zed, et aussi Lionel, que vous avez sûrement déjà vu dans quelques vidéos de Paris Central. Bonjour à tous, comment vous allez les gars?
Bah vas-y Lionel, t'es...
Moi ça va très bien, merci. Et vous?
En tant que guest,
Ouais.
ouais.
Bah,
Et toi, Zed?
moi ça va nickel, hâte de parler du sujet d'aujourd'hui du coup.
Alors justement, le sujet d'aujourd'hui, alors le titre a été peut-être mal interprété, hein, désolé, la direction sportive de l'équipe fixe des titres et j'essaie de m'adapter ensuite en live, mais le thème d'aujourd'hui, la question, hein, c'est une question, c'est pas une affirmation et je compte sur vous pour qu'on débatte tout ensemble au long de ce live et même dans les commentaires, n'hésitez pas à participer. La grande question fil rouge de ce live, c'est est-ce que le PSG actuellement est devenu plus attractif que les clubs historiques européens? Donc, pour parler de tout ça, justement, je vous propose qu'on évoque des situations concrètes de transferts de joueurs qui se sont faits récemment sur les dernières années. On va hésiter à citer des exemples et même des contre-exemples. Il n'y aura pas de problème, on ira dans les deux sens. Donc, justement, pour commencer, quand on voit le cas Kylian Mbappé, hein, on va commencer par le plus récent, qui était annoncé en fin de contrat et que, merci à Eve, ça fait plaisir. Mais du coup, justement, les gars, pour commencer par Kylian Mbappé, qui est justement notre joueur le plus récent pour aborder cette thématique. Kylian Mbappé a été longtemps annoncé d'accord avec le Real Madrid. Il était censé rejoindre le Real Madrid en fin de contrat. Et finalement, contre toute attente, il prolonge au PSG pour 3 ans. Qu'est-ce que vous pensez déjà pour commencer de ce cas-là, les gars? Bon, pour vous mettre à l'aise, on va commencer par Zed et Lio ira ensuite. Et comme ça, ce sera plus simple pour le tour. Salut à Roro qui nous a rejoint. Qu'est-ce que vous pensez de cette thématique et d'abord de ce cas-là précisément de Mbappé pour commencer, Z?
Bah, Kylian Mbappé, c'est monstrueux. C'est Kylian Mbappé, c'est peut-être pas encore le meilleur joueur de l'histoire enfin le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle, parce que Lionel Messi et l'ombre de Cristiano Ronaldo sont toujours là. Mais dans les faits, il est sans doute. On avait à un moment, il y avait eu un teasing Mbappé-Haaland, la future rivalité. Haaland a été complètement disparu, entre autres par les blessures, mais même par des performances qu'il n'a pas été capable de suivre. La montée de niveau qu'a fait Mbappé cette année, qui a été monstrueuse, où il a énormément progressé devant le but. Et oui, tout le monde s'attendait à ce qu'il aille au Real. Tout le storytelling allait dans ce sens-là, avec Benzema, etc., etc. C'était annoncé comme étant la love story à venir du Real Madrid. Et contre toutes attentes, il signe chez nous. C'est fou comme signe. Ça a envoyé un signal monstrueux. Après, faut le dire. Enfin, il y a l'arrivée, le changement de Leonardo avec Campos. Enfin, c'est pas venu tout seul, quoi. C'est pas venu tout seul. Il a sans doute fallu faire des choses. On peut aussi discuter. De la durée de la prolongation, on n'est pas sur une prolongation de 4 ans, 5 ans, on est sur une prolongation de 2 ans, enfin de 3 ans, pardon, ouais, 3 ans, on est sur une prolongation de 3 ans, donc c'est une prolongation qui lui donne beaucoup de liberté quant à la manière de voir la suite. Néanmoins, c'est un signe, on peut presque dire que c'est la première fois qu'on signe un joueur confirmé à son prime. Alors on a eu notamment Thiago Silva, on a eu Zlatan Ibrahimovic, même si Zlatan était
Démarre.
enfin, Neymar. Mais Neymar, c'était le coup du siècle, c'était etc. Et là, c'est presque la première fois que tu es en train de signer un mec qui est très haut. Il y a une forme de continuité, tu vois. Par exemple, Neymar, t'as repeint la Tour Eiffel pour Neymar. T'es pas dans cette dynamique-là pour Kylian Mbappé. Il y a une forme de continuité, et pourtant, c'est la méga star. Donc ouais, il y a quelque chose qui s'est passé quand même.
Justement, Lionel, qu'est-ce que tu penses de... On aimerait bien qu'il vienne hein, en ce qui concerne le petit tueur, mais je peux te comprendre en tant que niçois que tu as envie de le garder. Qu'est-ce que tu penses, Lionel, toi, justement, de
Oui,
cette prolongation d'Mbappé?
mais en fait, pour compléter un peu ce qu'a dit Dreyas, c'est-à-dire que là où c'est quand même assez fort, c'est que c'est un joueur qui était promis au Real. Et même l'an dernier, il fait une interview où il explique très clairement qu'il, lui, il a envie d'y aller. Et on arrive à retourner la situation. Donc ça prouve quand même qu'on a su donner de bons arguments. Quand on connaît le joueur, qu'on sait que ce n'est pas que l'aspect financier qui l'intéresse, mais que le sportif est très important dans son choix, etc. Donc ça prouve quand même que le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, a les armes pour pouvoir se battre avec des clubs historiques comme le Real, etc.
Alors oui, justement, après, c'est vrai que Mbappé, alors je vais rejoindre le commentaire de Maxime, salut à Thomas, qui nous dit Mbappé, à l'heure actuelle, il est titulaire dans n'importe quelle équipe, c'est simple. Ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a même Issa Nissa, alors je vais lui répondre, qui lui dit si Thuram va à Paris, il va même pas jouer. Alors je te rappelle, toi qui es niçois, est-ce que Thuram était titulaire à Nice en début de saison? Non. Est-ce qu'il a gagné sa place? Oui. Est-ce qu'à Paris, ça peut se passer pareil? Je pense. Pour répondre à Maxime, oui, Mbappé est titulaire dans toutes les équipes. Mbappé est titulaire partout aujourd'hui. Ça, c'est un fait. Je pense que n'importe quelle équipe qui recrute Mbappé ferait tout pour le mettre dans les meilleures dispositions. Par contre, là où Z a dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, Mbappé, s'il prolonge chez nous, c'est qu'il a eu des garanties. C'est qu'il a posé des questions concrètes à l'émir, il a posé des questions concrètes à Nasser sur comment allait se dérouler sur contrat, comment allait se dérouler le projet pendant qu'il soit justement au PSG. Et je pense qu'il a eu justement pas de problème, Enzo. On fera en sorte que Lionel soit un peu plus vocal. Mais voilà, justement, il a eu des garanties. Et je pense qu'il a signé pour certaines garanties. Je suis d'accord avec Z également. Le contrat de 3 ans, c'est une vraie garantie plus pour lui. Parce qu'il peut faire ce qu'il veut de son contrat. S'il veut, dans 2 ans, il nous refait le même cirque qu'on a eu l'été dernier. Et ça posera les mêmes problèmes encore. Mais il avait annoncé le fait de ne pas vouloir quitter libre le PSG et il a fait concrètement quelque chose pour prouver qu'il ne voulait pas quitter le PSG libre. Et ça, c'est un réel avantage. Est-ce qu'après, il a un accord avec le PSG pour quitter le PSG dans 1 an ou 2 avec une certaine somme de transfert? On ne sait pas. Mais au moins, dans un premier temps, il a déjà prolongé chez nous. Et sur ce dossier, concrètement, c'est une vraie victoire. Alors, je te promets, on a fait une vidéo sur Kefren Thuram, si ça t'intéresse. Elle date d'il y a un peu plus d'un mois. Je t'invite à aller la voir. Donc, au moins, tu auras notre avis sur ce qu'on pense de Kefren Thuram. Oui, Lucien Favre veut le garder, mais Galtier veut le prendre dans ses bagages aussi, je te signale.
On n'en parlera pas un petit peu après de Kefren Thuram.
Justement, il fait partie des joueurs qui sont abordés dans le sujet, Issa Nissa. Donc, je te propose de reparler de Kefren Thuram un peu plus tard. Mais est-ce que vous voulez rajouter chacun quelque chose au sujet de Kylian Mbappé?
Mais juste une chose, c'est on a découvert à notre grand regret peut-être, mais le commun des grands clubs, et ça a été introduit par Neymar, tu vois, tu t'en parlais, mais en fait fondamentalement tous les ans, tu vas te retrouver avec des promesses de joueurs machin. Enfin ça a peut-être changé avec Campos, ou des peurs de perdre des joueurs machin. C'était le quotidien du Real, du Barça. C'était le quotidien des clubs avec un profil haut où il y a les presses qui se truc. Donc ça, de toute façon, ce sera la même chose avec Kylian Mbappé, mais ce sera même pas le cas dans 2 ans. Ce sera déjà le cas l'année prochaine et on aura quelques sueurs froides et ça, c'est comme ça quoi. C'est devenu le quotidien du Paris Saint-Germain. Il faut l'accepter quoi.
Est-ce que justement, Lionel, tu voulais rajouter quelque chose toi aussi sur le dossier Mbappé, si on peut l'appeler comme ça?
Ben après, on sait que quand un joueur est sous contrat au Paris Saint-Germain, c'est très difficile de le débaucher. Je pense à mon avis que si Kylian venait à partir, ce serait dans 2 ans, mais pas avant 2024. Surtout qu'en plus, il y a les JO en 2024. Donc, je pense que ça nous permet un peu de sécuriser le joueur, parce que je pense qu'il a envie d'y participer. Et à mon avis, ça fait partie des négociations pour sa prolongation de 4 ans au Paris Saint-Germain.
En tout cas, avant de continuer ce live, je vois qu'on est une 60aine. Si on peut avoir, allez, on est 60, si on peut avoir au moins 30 pouces pour le moment dans cette partie du live, ce serait super. Si vous êtes nouveau dans l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner en tout cas et à aller regarder ce qu'on propose d'autre, parce qu'on ne fait pas que des lives, on fait aussi des vidéos où on parle des pistes de l'actualité, des joueurs pistés par le Paris Saint-Germain, s'ils sont intéressants ou non. Avant de continuer, j'ai essayé de voir un peu les nouveaux commentaires dans le chat. Voilà, exactement. Je vais t'appeler 8-2 parce que ton pseudo est super long. Je vais t'appeler Ocho même. Ocho, yo les gars, vous pensez à qui pour le poste de milieu défensif? Parce que ça traîne. Ah ben ça se voit que tu viens d'arriver parce que tu vois, Issa Nissa a évoqué Kefren Thuram. Lui, il m'intéresse par exemple, tu vois. Oula, non, Z, oh, Z, il a vraiment
pas... Non, mais Issa Nissa, tu mets... Enfin, pas Issa Nissa, mais tu mets Thuram et milieu défensif, voilà.
Toi, ça te convient pas?
Ah ben non, bah on en parle. Enfin, sinon on peut ouvrir le dossier Kefren Thuram. Kefren Thuram au niveau défensif, il est frêle, il va pas au contact. Il a des qualités. Moi, c'est un joueur qui m'a tapé dans l'œil la saison dernière. Pour aller un peu plus loin que ce que tu disais tout à l'heure, non seulement il est pas titulaire en début de saison, mais surtout il est pas titulaire dans les matchs où ça compte. Il est pas titulaire, je crois, c'est 32, 33, 34 et 30. Enfin, en gros, il n'est titulaire que 2 fois. Dans les 5 derniers matchs, et il y a une fois où il n'est même pas sur la feuille des matchs.
Par contre, contre nous, il joue. Hein, nous, on est le match le plus important de la saison contre Nice. Contre nous, il joue. Et il fait même des bons matchs.
Je te parle à partir de la 31e journée. Je suis allé regarder sur Transfermarkt. Il joue pas quand ça compte. Il joue pas quand ça compte. Quand il y a la course finale qui est engagée, il joue pas. Et on parle d'un joueur. Enfin, je sais pas. Il y en a, par exemple, qui j'entends dire à droite et à gauche. Alors après, peut-être que ça fera success story et que ça marcherait tout de suite. Hein. Mais j'entends des comparaisons avec Kamavinga. Kamavinga, la première saison, il a plus de titularisation, il a plus de titularisation en fin. Il fait une sélection en équipe de France. Et en plus de ça, derrière, il va faire une autre saison, d'ailleurs, où il a un peu de mal à confirmer. Et ensuite de ça, il est prêt, effectivement, pour aller prendre le banc au Real Madrid. Faire venir Kylian Thuram à l'heure actuelle, ce serait et mauvais pour nous, et mauvais pour le joueur. C'est un joueur qui est encore en post-formation. On parle vraiment pas d'un joueur qui a terminé sa post-formation. Il a encore plein de choses à apprendre, plein de choses à appréhender. C'est un joueur qui a des qualités, mais il doit encore progresser. Donc pour moi, si on prend Kiefren Thuram, ça ferait sens, surtout qu'en plus à Nice vient de débarquer le coach qui est peut-être un des meilleurs coachs de post-formation qui existe à l'heure actuelle. Et pour moi, ce serait un non-sens de le prendre pour le faire venir à Paris, pour le mettre sur le banc alors qu'il a besoin de jouer. Si on prend Kiefren Thuram, si on prend, on prête un an à Nice avec un intéressement à la revente, et à ce moment-là, ça ferait carrément sens. Mais le prendre pour le faire venir, j'entends plein de gens dire « Ouais, ce serait génial, machin, bidule chouette. » Pour moi, c'est une connerie sans nom. J'aurais peut-être tort, hein, le joueur serait peut-être capable de confirmer toutes les promesses. Et je vais enfin rebondir sur le milieu défensif. Thuram, les qualités, c'est pas du tout milieu défensif.
Donc, au niveau répondre à la question, t'aimerais qui ? C'est ça la question.
Ben, alors, la question, c'est tout dépend comment on s'organise, en fait. Moi, il y a eu un moment, il y a eu la rumeur Calvin Phillips, et j'étais en mode, ouais, il y a Calvin Phillips, il n'y a pas de problème, tu joues dans un milieu à 3, tu vas avoir deux milieux qui vont être plus hauts, et il n'y a pas de souci. Après, pour cette problématique-là, au-delà de vraiment couper le défenseur, c'est surtout pour un joueur la capacité de défendre. Et on n'a pas du tout la capacité de défendre en zone. Et ça, c'est quelque chose qui pose problème. Mais ça, tu vas le compenser avec le fait d'être à 3 centraux. Et d'avoir un central qui va avoir un rôle hybride, en fait.
Bah, salut à Sosov, ça fait plaisir. Hein. On commence à avoir vraiment des auditeurs un peu partout là. Bah, bonjour d'Alger, bah, salut de France. La jeune génération qui a grandi avec le PSG, QSI, aime le club. Nuno Mendes, Ekitike. Alors Ekitike, justement, je suis content d'en parler parce qu'il y a une info qui vient de tomber ce matin du Télégraphe. J'imagine que bah, vous l'avez vu vous aussi. Cette info qui dit qu'il y aurait un accord entre le PSG et Ekitike. Et qu'on connaît la concurrence sur le dossier, parce que je vous rappelle qu'il y a 6 mois, il y avait dans la presse des accords qui étaient annoncés. On disait que Newcastle était d'accord avec Reims sur un transfert à 45 millions, que Ekitike allait rejoindre le club. Le fait que, bah, justement, Ekitike rejoigne le PSG et ne va pas en Première Ligue. Bon, alors après, Ekitike, on n'a pas été en concurrence avec lui, avec des cadres européens au sens propre du terme, comme pour les autres. Mais cette piste est quand même assez intéressante et je voulais savoir ce que vous en pensez.
Bah, Lionel peut-être.
Oui. Ekitike, moi je trouve que c'est vraiment le style de joueur que Paris doit essayer de recruter. C'est un joueur qui, aujourd'hui, donc, peut-être on va le payer plus cher que sa vraie valeur. Mais si on le laisse partir à l'étranger, dans 2 ou 3 ans, c'est un joueur qui peut valoir pas loin de 100 millions. Et on a déjà vu ces dernières saisons, souvent on se positionne sur des joueurs quand ils sont déjà confirmés. Et on paye un prix qui, si on avait récupéré ce jour-là 1 ou 2 à l'avance, qu'on n'aurait jamais eu à payer quand il arrive chez nous. Donc, il faut en même temps prendre des joueurs confirmés. Et quand on a des joueurs qui ont ce profil, cette qualité, en plus dans notre championnat, ce qui est quelque chose pour moi qui est primordial, il ne faut surtout pas les laisser passer, quoi.
Mais qu'est-ce que tu penses ? Alors, je lirai les commentaires après, hein, vous inquiétez pas, même si tous les commentaires ne montent pas, je vois quand même les commentaires dans le chat, j'essaierai de vous répondre du mieux que je peux. Qu'est-ce que tu penses, toi, Z, justement, de cette situation avec Ekitike c'est accord avec Reims, j'ai vu ce que tu as écrit. Désolé, je m'excuse.
La news, alors après, ça, c'est en attente de confirmation, mais la news aujourd'hui, c'est qu'il y a un accord aurait été trouvé avec Reims, parce que c'est sur ce point-là que ça bloquait, parce que Ekitike avait un accord avec. Enfin, il y avait Reims qui avait un accord plutôt avec Newcastle sur un certain montant. Paris le voulait pour moins cher, donc le montant n'a pas filtré, mais l'accord avec Reims aurait été trouvé, parce qu'effectivement, l'accord avec le joueur, il a été trouvé depuis un petit moment. Pour le joueur, Ekitike, clairement, c'est un avant-centre prometteur. Après, je trouve que la hype est disproportionnée. On parle d'un avant-centre qui a des grands pinceaux qui parfois se les emmêlent encore. On parle d'un attaquant qui peut avoir des problèmes de blessure, qui en a eu, et à son âge, avec son physique, il va clairement falloir qu'il prenne du muscle. Et la problématique au-delà de ça, parce que vraiment il est prometteur, il est vraiment complet, il y a juste un immense point faible pour ce joueur, et ça c'est quand même problématique, c'est le jeu de tête. Quand tu sais que t'as des ailiers comme ça, que t'as des capacités de passe,
sa taille,
et tu mets un mec d'un mec 80, je sais plus combien il fait, 96 ou 92, je sais plus exactement, et qui est incapable de placer une tête, bon déjà défensive il sait pas les faire, mais offensive il est mais genre Kylian Mbappé, c'est un génie de la tête comparé à Kylian Mbappé d'il y a 3 ans, je veux dire. Voilà, il est très très mauvais de la tête, et c'est tiltant quand tu vois sa taille et que tu sais que c'est un vraiment comparé à Saint-Germain. Mais moi, ma vraie préoccupation avec lui, c'est la structure des appels. C'est un joueur qui est très intéressant parce qu'il est vraiment tout terrain, il est capable de toucher des balles dans toutes les zones. Je le voyais pas forcément capable de faire des remises, mais en fait il est très très fort en remise. Au niveau de la participation au jeu, faut pondérer ça, parce que quand tu vois ses heatmaps, il y a un truc que tu veux. Ah mec, Ah, plus, je crois, Mohamed. Hein. T'as vérifié?
Je pense que Mohamed, il a vérifié sur. Connaissant Mohamed, il a vérifié sur Google pour te
Enfin,
sortir l'info.
moi j'avais 1,90 et
Ouais, voilà. Il me
72 kilos.
semble que c'est plus. Mais bon, peu importe. Oui, voilà. Donc, il faut pondérer ça dans le sens où tu le vois très bien au niveau des heatmaps. C'est qu'il touche plus de ballons, par exemple, qu'un Scamacca, n'est-ce pas, Lionel? Il touche plus de ballons qu'un Scamacca. Mais il n'en touche pas tant que ça dans un match. Il n'en touche pas tant que ça dans un match. Alors après, ça a pondéré avec le fait qu'il joue à Reims. Moi, ma grande crainte, c'est que quand tu regardes la structure de ses appels, l'endroit d'où il part, la direction dans laquelle il va, c'est exactement les mêmes appels, en fait, que fait Kylian Mbappé. Et que si tu te retrouves dans une situation où tu dois aligner les deux, il y a un taf de psychopathes pour qu'ils se comprennent et qu'ils savent faire des appels croisés et qu'ils ne partent pas tous les deux dans la même direction comme ils auront tendance à le faire. Et ça, c'est un énorme problème.
Alors, Roro a raison, il vient tout juste d'avoir 20 ans.
Ah, complètement.
Il reste perfectible, il peut s'améliorer. Alors, je vais laisser Lionel justement
Ouais. Ah.
donner son avis quand même avant de poursuivre, tu vois.
Ok.
Mais vas-y, Lionel, justement, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette situation vis-à-vis des critiques?
Ben en fait, moi, la question que je me pose aussi, c'est est-ce qu'on n'est pas parti sur un projet de 3 ans avec Mbappé et qu'on ne cherche pas déjà un profil un peu similaire qui va travailler derrière Mbappé pour ensuite prendre le relais après 2024-2025? Ça peut être vu comme ça et aussi ça peut être un joueur qui, en travaillant, va s'adapter un peu au mouvement d'Mbappé, peut-être devenir complémentaire avec lui, être aligné ensemble une saison avant de prendre la suite d'Mbappé, parce qu'il a quand même 20 ans. Donc ça nous permettra de pouvoir déjà avoir le successeur d'Mbappé dans notre effectif. Et
Voilà, alors on va répondre, tu vois, pour pas que les gens s'enflamment trop, hein, et critiquer, c'est pas Mbappé exactement. Mais si Mbappé part, c'est un joueur qui a un profil de jeu et dans comment il se déplace sur le terrain, c'est celui où, entre guillemets, si tu le prends, c'est plus pour remplacer Mbappé que Messi ou Neymar. On va pas se mentir. Par contre, comme l'a dit Zed et comme c'est dit aussi dans les commentaires à très juste titre, c'est un joueur qui est encore très jeune. C'est pas, tu le recrutes pas pour en faire un titulaire qui va faire 60 matchs cette saison. Par contre, tu sais que bah, quand tu vas faire tourner en attaque, c'est un profil de jeu qui est intéressant, surtout si tu vas jouer dans un 3-5-2. Peut-être que bah, tu peux éventuellement, si, je dis bien, si Scamacca est recruté avec, je pense que tu peux additionner les deux pour avoir bah, justement des profils de jeu différents en attaque. Avant qu'on poursuive, justement, est-ce que vous voulez dire une dernière chose justement sur les deux?
Ouais, bah,
Zed, tu avais l'air.
rebondir sur l'âge, et justement, faut faire la distinction avec un Khéphren Thuram. Et Kitike, lui, a fait une première saison complète où il avait énormément de responsabilités. Il était vraiment le seul responsable sur le front de l'attaque de Reims. Et s'il n'est pas titulaire tous les matchs, c'est juste parce qu'il a eu une blessure et justement la problématique de la blessure. Mais c'est un joueur qui est plus prêt. Par exemple, qu'un Khéphren Thuram, s'il devait faire du banc, ça serait moins dramatique que pour un Khéphren Thuram. Il est plus avancé, à mon sens, par rapport à sa post-formation. Après, bah ouais, mais même si je dis ça reste dommage de prendre ce joueur pour ne lui proposer que 10 matchs dans la saison. Et si tu l'envisages en tant que remplaçant de Kylian Mbappé, il faut vraiment être conscient d'une chose avec Kylian Mbappé, c'est que Kylian Mbappé reste 1 an ou 2 ans, il est là pour marquer le plus de buts possible, pour faire le plus de titularisations possible. Et s'il ne faut pas laisser une miette, il n'en laissera aucune. Si physiquement il peut au niveau des retours, il sera tout le temps là. Donc c'est pour ça qu'Ekitike, j'ai du mal à comprendre en fait la logique, où est-ce qu'on ferait jouer, pourquoi, etc. C'est plus au niveau de comment tout ça s'axe que j'ai du mal à comprendre ce qu'on a l'intention de faire.
Alors, on a Clem qui nous demande, est-ce qu'on a des infos sur Skriniar? T'en as, Z?
Il y a une relance aujourd'hui, comme quoi, etc., comme quoi ça devrait être, mais bon, pour l'instant, ça reste un peu au statu quo de ce que j'ai vu.
Voilà, on va pas prétendre être insider ici. On va pas commencer dans ces jeux-là. On a vu ce qui arrive à ceux qui le font. Lionel, justement, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, toi aussi, sur le sujet?
Ben en fait, il y a quelque chose à prendre en compte cette saison, c'est qu'on est sur une saison où il y aura la Coupe du Monde au mois de novembre. On aura un joueur comme Mbappé qui, on l'espère pour la France, ira très loin, peut-être à la Coupe du Monde. Donc ça veut dire que ce soit avant la Coupe du Monde ou après la Coupe du Monde, ça offrira du temps de jeu à un joueur comme Ekitike. Parce que ben, il aura besoin, avant la Coupe du Monde, bien sûr, de se préparer en un maximum de matchs, mais il aura besoin aussi de phases où il jouera un peu moins. Et après la Coupe du Monde, il faudra voir comment il reviendra de la Coupe du Monde, dans un état physique et mental. Et ça offrira forcément un peu de temps de jeu à un joueur comme Ekitike. Et ils peuvent être alignés aussi. Neymar et Messi qui n'ont pas joué tous les matchs. Donc je pense qu'il y aura une rotation quand même avec tous ces joueurs-là.
Alors, je vais vous proposer de recentrer justement sur ce sujet en évoquant une autre piste. Mais avant, là, je viens d'avoir une petite info. Bon, Enfin, dans le mode, j'ai des contacts, hein. J'ai reçu une notif Twitter qui dit: Neymar a été touché à une hanche mardi à l'entraînement et ne sera pas disponible pour le match ce soir contre Quevilly Rouen Métropole. En revanche, aucun souci pour la tournée au Japon, il sera bien là. Voilà, je lâche l'info. Bon, je ne cache pas que j'ai quelques inquiétudes, mais bon, s'il nous dit qu'il est en état de faire la tournée au Japon, je laisse le bénéfice du doute, je vais lui faire confiance. Alors, il y a Roro qui nous dit: nouvelle rumeur, Gonçalo Ramos pour pallier à Scamacca qui est trop cher. Ça tombe bien que tu en parles. Notre ami Isadrias, ici présent, a tourné une vidéo sur le sujet avec Alexandre Carvalho, notre nouveau spécialiste du football portugais. T'inquiète pas, ça va sortir d'ici peu et ils répondront à toutes les questions que tu te poses sur le joueur. Luis Campos est intéressé par Gonçalo Ramos. Ben, même réponse. Ah bon, il paraît que De Jong arrive. Alors, moi, je te cache pas, je serais super content, hein, mais je sais pas, Alain, je sais pas d'où tu sors l'info, mais si c'est vrai, j'en serais très content. Je comprends la réserve de Z sur Ekitike, mais n'écartez pas l'éventualité d'une blessure de Kylian. En effet, Fabrice. Non, mais Fabrice a raison pour le coup. 50 millions sur Scamacca, c'est trop cher. 35, c'est bien assez. Je suis d'accord avec toi, mais West Ham, justement, est annoncé avec une offre bien, bien chère. Alors, Monsieur Ben TV, qui est nouveau, qui nous dit: bonjour, Monsieur Z, j'aime l'acuité de tes analyses. Ça fait plaisir, c'est gentil de ta part. Je vous propose de recentrer un peu sur le sujet pour pas non plus qu'on fasse de la lecture de chat pendant tout ce live. Alors, c'était justement, est-ce que le PSG devient plus attractif que les clubs européens? Et là, je vais revenir sur un joueur qui fait un peu les choux gras récemment. C'est Renato Sanchez qui, depuis presque un an, est annoncé proche de l'AC Milan, proche de signer, proche d'un accord. Et bizarrement, depuis que Luis Campos est arrivé, le PSG est rentré dans la danse. Alors, Lille préfère le vendre à l'AC Milan. On se demande pourquoi. Peut-être que Peter Elliott a un lien avec tout ça, mais on ne va pas trop s'avancer. Hein. Il n'y a pas du tout de conflit d'intérêt. Mais en revanche, depuis que le PSG est rentré dans la course, ben Renato Sanchez, il hésite un peu. Il n'est plus aussi sûr que ça d'aller jouer à l'AC Milan l'an prochain. Et ça pose un peu problème à l'AC Milan et même à Lille, parce qu'ils auraient aimé conclure l'affaire rapidement. Ben, Lille pour pouvoir remplacer Renato, AC Milan pour pouvoir compter rapidement sur le joueur dans l'effectif. Et bien que certains supporters sur RMC se seraient plaints que Renato serait un Neymar en moins bon, Renato, moi, c'est un joueur que je serais très content d'avoir au club. Et pour le coup, ça répondrait vraiment à la problématique de ce live. Est-ce qu'on devient plus attractif qu'un club historique européen? Si on pique Renato Sanchez à l'AC Milan, je pense que la question se pose quand même. Vous en pensez quoi, les gars?
Je peux commencer, si tu veux.
Vas-y, Lio, avec grand plaisir.
Ben, en fait, moi, je pense qu'il y a différents types de clubs historiques. Il y a ceux qui, sur les, on va dire, les 15-20 dernières années, ont gardé une continuité sur les résultats sportifs. Quand tu prends le Real, le Barça, le Bayern, ces clubs-là, en fait, sur les 15 dernières années, continuellement gagné, que ce soit dans leur championnat et aussi bien sur la scène européenne. Après, quand on parle de clubs comme le Milan AC, comme l'Inter, on parle de moins la Juve, parle de clubs...
On parle de comment il s'appelle le joueur? Comment il s'appelle le joueur dont on parle, de Renato Sanchez?
Ah, oui.
Sur l'ensemble, sur les clubs. Ouais, voilà, c'est plus.
Oui, non, mais je parle de par rapport au club historique. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des clubs historiques.
Juste un contexte. Oui. Vas-y, Yodel.
Voilà. Et en fait, quand on prend un club comme le Milan AC, sur les 10 dernières années, sportivement, c'est un club qui n'a pas eu de meilleurs résultats que le Paris Saint-Germain, que ce soit sur la scène nationale et sur la scène européenne. Donc aujourd'hui, par rapport aux résultats, aussi par rapport à nos finances, on est capable de se positionner sur des joueurs en face de clubs comme le Milan, comme l'Inter, comme la Juve, etc. Je pense que si c'était face à des clubs comme le Bayern, comme le Real ou le Barça, ce serait peut-être un peu plus difficile. Et là, ce serait peut-être l'aspect financier qui rentrerait en compte.
Bah justement, toi, Z, t'en penses quoi de cette situation avec Renato? Est-ce qu'on peut dire que dans ce cas précis, on est plus attractif qu'un club historique européen? Même si, comme l'a dit Lio, selon les avis, tu peux avoir plusieurs définitions de ce qu'est un club historique. Est-ce que c'est un club historique qui est encore dans le coup, comme le Bayern, le Barça, le Real? Est-ce que c'est un club, tu sais, qui est en reconstruction, on peut dire, comme l'AC, l'Inter Milan? Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Z, toi?
Je pense que pour Lionel a bien décrit la situation là. Et le seul truc, c'est que je rajouterais, je pondérerai un tout petit peu sur l'AC Milan. L'AC Milan est en train de se reconstruire d'une manière très très cohérente depuis 2-3 ans. Ça a changé et justement, c'est un club qui donne sa chance aux joueurs et qui essaie de proposer un football attractif. Et on aurait pu se retrouver avec un Renato Sanchez qui aurait été attiré par ce projet, par ce football, et qui en dépit de ça choisit malgré tout le Paris Saint-Germain. Après, faut bien prendre en compte La proximité qu'il y a entre Renato Sanchez et Campos, qu'il a déjà. Alors, je sais pas si je me souviens plus s'il l'avait fait venir à Lille ou. Mais il me semble qu'il l'avait fait venir à Lille. Ce sont deux Portugais. Et donc, on peut se demander si Renato Sanchez choisit le Paris Saint-Germain ou si Renato Sanchez choisit Campos. C'est à prendre en compte.
Alors, pourquoi on ne compte pas sur notre Titi Kalimuendo? Bah, moi, je travaille pas au club, donc j'en sais rien, mais j'imagine que dans l'optique que c'est un joueur avec une valeur marchande, qu'on sait que le PSG a envie de vendre des actifs avec une valeur marchande pour acheter d'autres joueurs, bah, si Kalimuendo, tu as une offre de 25 millions, alors que, y en a d'autres, tu n'as pas ces offres-là, bah, il va être sacrifié sur l'autel des ventes, comme en 2018, on était Nkunku, Diaby, parce que, bah, il y avait offre pour eux. Il y a Kevin Reyes qui nous dit Renato, c'est pas grand-chose, désolé, mais c'est pas Haaland, c'est pas Tchouaméni, Nunez. Renato, c'est 10 millions et à part nous, le Milan, aucun grand club en veut. Alors Renato, moi, c'est mon avis et t'as le droit de pas être d'accord avec. C'est un joueur qui est censé être générationnel. C'est un mec qui quand même a montré de très bonnes choses très très jeune, qui a été transféré dans un très gros club à une époque où il avait une énorme concurrence et dans laquelle ça n'a pas été facile pour lui de s'imposer. Il a connu son échec dans un grand club et malheureusement, le défaut qu'il a à Lille, c'est qu'en plus de ses blessures, bah, t'as vu, il se permet un peu de choisir ses matchs. Donc, je peux entendre les craintes que tu es sur un tel joueur. Par contre, si tu arrives justement à tirer le meilleur du potentiel d'un mec comme Renato Sanchez au Paris Saint-Germain, et quand tu vois les problèmes qu'on a eu au milieu ces derniers temps, je pense que signer un Renato Sanchez qui arriverait à son top, merci Paname G pour le don, bah justement, si tu arrives à signer Renato Sanchez et en tirer le meilleur, là, je suis tout à fait pour, surtout à 10 millions. Merci en tout cas, Paname G, ça fait super plaisir. Mais je sais pas, vous en pensez quoi, vous les gars, justement, sur cette thématique par rapport à Renato et cette concurrence vis-à-vis du Milan?
Alors, je vais juste réagir vite fait d'abord à la question sur Kalimuendo. Moi, c'est un Titi et donc je l'aimais parce qu'il est cohérent. Mais pour le coup, là, avec Kalimuendo, là où un Ekitike propose un autre profil que Mbappé, il y a la problématique des appels dans la même zone. Mais par contre, chez Ekitike, il y a la capacité de jouer dos au but, de faire des déviations. Kalimuendo, c'est vraiment un profil qui est comme Kylian Mbappé et c'est très difficile d'envisager ailleurs que sur le banc et il n'aurait aucun autre rôle. Pour Renato Sanchez, ouais, je pense qu'on a dit l'essentiel, c'est-à-dire que à la fois il y a comme l'a dit Lionel, le Milan n'est plus le Milan des années 90-2000 qui allait où à l'époque c'était un des monstres d'Europe, à l'époque le championnat italien c'était la panacée quoi.
Bah, c'était la pielle d'aujourd'hui, ouais.
Voilà. À côté de ça, tu as effectivement le Milan qui est un club en nom et la proximité Campos Renato Sanchez qui pour pondérer tout ça. Mais en fait, tout est question. Est-ce qu'on choisit de regarder le verre à moitié vide ou est-ce qu'on choisit de regarder le verre à moitié plein? À moitié plein, c'est effectivement Renato Sanchez a choisi le Paris Saint-Germain. À moitié vide, c'est ouais, Milan était pourri, machin truc. Mais toujours est-il que les saisons précédentes, bah, il y avait peut-être des Milans, il y avait peut-être des trucs, mais les joueurs ne choisissaient pas le Paris Saint-Germain. Donc ça, c'est nouveau.
Qu'est-ce que t'en penses, toi, justement, Lio, de ça, maintenant que tu as répondu à ce qui est pourtant un club historique? Est-ce que tu penses que sur ce coup, quand on juge la situation Renato Sanchez, on peut estimer que Paris a été, pour le coup, plus attractif, qu'un club historique?
Oui, c'est évident. Et comme je disais, je pense qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain se place juste en dessous de certains clubs. Et des clubs comme Milan AC ne sont pas plus attractifs que le Paris Saint-Germain au moment où on parle, quoi.
Alors, moi, pour répondre justement à ceci, alors, il y a Clem qui nous dit que QSI voudrait racheter l'Espagnol Barcelone pour devenir un club satellite. Bah ouais, comme nous, tu as vu les news dans les infos. Donc là, c'en est qu'au stade de discussion apparemment. Donc, tant que ça n'avance pas, je propose que ce n'est pas trop la peine qu'on commence à aller dans un futur qui n'est pas forcément possible. Parce que, bah, justement, pour donner un parfait contre-exemple de est-ce qu'on est devenu plus attractif que les clubs européens, là, on va parler d'un sujet qui a quand même fait friser du poil, parce que beaucoup de supporters parisiens ont cru que ce joueur allait rejoindre le PSG cet été. Bah, il s'agit d'Aurélien Tchouaméni, qui, lui, pour le coup, a choisi un club historique en choisissant de rejoindre le Real Madrid plutôt que de rejoindre le Paris Saint-Germain. Bah, vous pensez quoi de cette situation précise, les gars, justement?
Ben, pour le coup, j'y vais Lionel, ça t'en est pas. Pour le coup, Tchouaméni, on parle d'un joueur qui était pas confirmé, mais qui était pas loin d'être joueur confirmé, qui était voulu par tous les cadres européens. Et c'est là où il faut mesurer, et c'est là où on va avoir ce débat par rapport au Paris Saint-Germain. C'est que est-ce que un joueur qui est confirmé, est-ce que va choisir par défaut le Paris Saint-Germain, surtout dans une posture où sa place n'est pas forcément définie. Je pense que tu vois, si tu te retrouves avec un joueur confirmé où il y a clairement un manque, où il peut clairement prendre le poste de numéro 1, je pense notamment à Achraf Hakimi l'été dernier, eh bien, à ce moment-là, tu auras une chance de le toucher. S'il faut qu'il vienne dans un contexte où il y a de la concurrence, eh ben, entre Paris et le Real, il semblerait, Paris, Real, Barça, Munich, il semblerait que les joueurs vont plutôt choisir encore à ce stade les autres clubs. Mais ce qui est intéressant, c'est que des clubs qui sont plus des prospects confirmés, comme par exemple les Renato Sanchez, eux vont se dire, bah tiens, ouais, Paris. Et ça c'est nouveau. Mais effectivement, Tchouaméni, c'est à Marseille avec Kylian Mbappé, on peut pas gagner à tous les coups. De toute façon, c'est un jeu où tu peux pas gagner à tous les coups. Et c'est encore peut-être le prochain palier qu'il nous faut gagner. Et je pense que pour gagner ce palier, il va falloir aller encore plus loin en Ligue des Champions.
Alors, il y a Rourou qui disait quelque chose de très intéressant. Il disait, les clubs historiques ont 110, 120 ans. Le PSG a 50 ans, on est en pleine construction de notre histoire et de notre identité, et c'est pas tout à fait faux. Il y a F qui nous demandait si Galtier allait tester le 3-5-2 ce soir. Je pense que oui, ben, je pense que ça a été annoncé, je pense que tu as eu presque 2 semaines d'entraînement, hein, si tu comptes aujourd'hui. La fameuse périodisation tactique dont Z a super bien parlé dans une vidéo avec Basto et Alex a dû être mise en place depuis, donc je pense que oui, il y a moyen que ce soit, on puisse voir un 3-5-2 comme ça a été demandé en commentaire, pourquoi pas des Vitinha, des Zaïre Emery, je pense qu'il y a moyen qu'on voie quelques joueurs qu'on n'a pas vu jusqu'ici, ça peut être très intéressant. Salut à Ryan qui nous dit que c'est la première fois qu'il arrive en live et d'habitude il regarde en rediffusion, bah, bienvenue à toi, bah, profite, hein, en espérant que ça te plaise. Alors justement, maintenant, pour revenir plus sur Tchouaméni, Tchouaméni, c'est vrai que d'un côté, on a été dans la négociation. Alors, officiellement, certains te diront qu'on n'a jamais négocié avec Monaco ou avec Tchouaméni, mais je ne pense pas que le Real soit monté si haut au niveau du prix d'achat s'ils avaient été tout seuls avec Tchouaméni. Je pense que si le prix a enflé, c'est parce qu'il y avait une concurrence. Et là, pour le coup, c'est un bras de fer qu'on a perdu. Et c'est vrai que j'ai été plutôt étonné parce que tu avais des arguments pour faire venir Tchouaméni. Tu pouvais lui dire que tu étais à 6 mois de la Coupe du Monde, qu'au PSG, il y avait des vrais problèmes au milieu de terrain qui auraient pu s'imposer rapidement dans cette équipe et que le fait d'être titulaire, de rester titulaire dans un club, pouvait lui assurer plus facilement du temps de jeu pour la Coupe du Monde en équipe de France. À l'inverse, s'il jouait dans un club comme le Real, où il sera en concurrence avec des mecs qui sont des cadors, et là, s'il a peu de temps de jeu, ça va être compliqué pour lui de gratter une place de titulaire en Coupe du Monde en équipe de France. Étonnamment, il a justement choisi étonnamment, je peux comprendre ses motivations, il est sûrement supporter du Real depuis tout petit, il a choisi de rejoindre le Real Madrid, et c'est, je ne cache pas, j'étais assez surpris. Vous en pensez quoi, vous?
Alors, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que le changement de direction n'a pas pesé aussi dans ce choix? Parce que Campos arrive, officiellement, il est arrivé, je crois, fin juin, mais il a commencé à travailler plus ou moins après la prolongation de Mbappé. Et on sait que le Real était positionné sur Tchouaméni depuis janvier, février, mars. Donc il y a eu un travail de sable qui a été fait sur la durée. Et qu'on le veuille ou non, quand un club comme le Real, depuis des mois et des mois, te montre qu'ils te désirent, qu'ils ont envie de t'avoir et qu'ils te donnent un projet qui est lisible, ce qui n'était pas le cas du Paris Saint-Germain, parce que jusqu'à l'arrivée de Campos, même nous supporters, on ne savait pas qu'est-ce qui allait arriver. Était plutôt dans l'expectative, on attendait la prolongation de Mbappé, etc. Donc quand tu te positionnes sur ce joueur-là, peut-être au mois de mai, et que lui, derrière, il avait déjà eu un projet bien détaillé par le Real Madrid, je pense que c'est beaucoup plus compliqué pour nous, qui n'ont pas ce poids de l'histoire, de retourner la situation, que si on avait inversé les rôles, ou si le Real se positionne sur ce joueur-là au mois de mai, je pense qu'ils ont cette capacité, eux, de retourner la situation que nous, pour l'instant, on n'a pas encore aujourd'hui. D'accord.
Qu'est-ce que tu penses, toi, Z, justement, de cette situation? Tu voulais rajouter quelque chose?
Je pense que Lionel a tout dit, là. Pour le coup, je suis complètement d'accord avec lui.
Alors, il y a Alain qui dit, il n'y a de pas oublier que Mbappé a choisi le PSG plutôt que le Real. Justement, c'est le premier sujet qu'on a abordé dans le live. Tchouaméni ne va pas s'adapter. Pas forcément. Il va cirer le banc comme Camavinga, qui joue peu. Il a joué quand même, Camavinga. Hein. Il a joué plus de 1500 minutes. Hein. Il va ruiner sa carrière. Non, je pense que tu vois, c'est pas la peine de souhaiter du malheur à un joueur parce qu'il nous rejoint pas. En toute honnêteté, quand tu vois l'âge de Modric, l'âge de Kroos, le fait que Casemiro, même s'il est que 30 ans, on va pas se mentir, il a joué à très très haute intensité très longtemps, et avec tout ce qu'il a gagné, on peut se poser des questions sur sa fin. Je pense que Bah, Tchouaméni, il arrive au bon moment au Real. Alors, ce n'est pas cette saison qu'il va faire 60 matchs par saison au Real. Par contre, il arrive au bon moment parce qu'il va avoir les anciens qui jouent à son poste, qui vont lui transmettre certaines choses, comme ils ont fait avec Camavinga cette année, en lui disant, bah, regarde, tu arrives au Real, le Real Madrid, c'est ci, c'est ça, ça se déroule comme ça, toi tu joues à ce poste, va falloir que tu joues comme ci, va falloir que tu joues comme ça. Et le fait qu'il y ait encore les dinosaures au milieu de terrain cette année, bah, c'est eux qui vont manger la pression. Ce n'est pas Tchouaméni et son transfert à 80 millions parce que ce sera qu'un joueur parmi le Real Madrid. Ce ne sera pas la star de l'effectif. Ce sera un joueur parmi les stars. Et du coup, ben, pendant la première année, on va le laisser tranquille. Parce que ben, ce seront les autres qui vont prendre la pression. Même si ben, à chaque fois qu'il va rentrer, forcément, il y aura des interrogations. Tout le monde va se dire, eh ben, qu'est-ce qu'il a fait comme entrée? Est-ce qu'il a bien joué? Est-ce qu'il a mal joué? Oh, la mauvaise idée, il a signé au Real et à chaque fois qu'il rentre, ça se passe mal. Ben, il a 2, 3 ans pour s'adapter. Et c'est quand même un luxe. Et au final, je trouve que c'est bien réfléchi de la part du Real de le recruter. Même si, comme je ne le cache pas, j'ai un peu les boules. J'aurais préféré qu'il joue chez nous. Pas de cachet, tu
Oui, puis s'il fait comme Kamavinga, c'est 41 matchs joués cette année, dont 16 titulaires. Donc, sincèrement, il y a pire, je pense, pour un joueur de 19-20 ans, quoi.
Et demande à nos jeunes s'ils ont joué autant cette saison.
Pour une première saison. Surtout pour une première saison. Après, la comparaison avec les jeunes, elle est pas tout à fait juste, hein, parce qu'on parle d'un joueur qui a fait 2 saisons, dont et qui
titulaire, bien sûr.
En équipe de
Oui,
France,
et puis etc. que tu as payé 40 millions aussi, donc c'est
Oui.
pas pareil.
Bien sûr, le contexte n'est pas le même, mais je veux dire, dans les faits, il a joué, le Camavinga. Tchouaméni, on ne sait pas combien de minutes il jouera, mais tous ces joueurs, ils ont joué. Alors, il y a Farid qui est nouveau dans le chat, qui nous dit pas mal de Madame Irma sur le chat. Tchouaméni a tout pour s'imposer au Real, apprendre aux côtés des anciens et s'imposer progressivement. Je suis d'accord avec toi, Farid, pour le coup. Moi, ce n'est pas parce que c'est un joueur qui a refusé mon club que je vais faire le gros rageux. Hein. Je veux dire, je préfère, tu sais quoi? Je préfère l'honnêteté d'un joueur qui signe dans un autre club parce qu'il a envie de signer dans ce club et qui ne nous rejoint pas. C'est tout à son honneur, franchement, je n'en voudrais jamais. Plutôt qu'un joueur qui te fait croire qu'il veut jouer dans ton club, parce qu'en fait, il a d'autres motivations, hein, peut-être le chéquier ou je ne sais pas quoi, et qu'une fois arrivé chez toi, il n'en fout pas une, tu vois. Donc, c'est tout à son honneur. Je préfère un joueur qui nous refuse et qui a au moins le courage d'aller jouer pour le club de ses rêves, tu vois, plutôt que un joueur qui nous la mette à l'envers complètement. Vas-y, Zed.
Très, très rapidement, j'espère qu'on va pas arriver à 200 likes parce que là, avec la température, j'ai pas envie de mettre la doudoune. Donc, s'il vous plaît, likez pas trop parce qu'à 200, je sens que sinon je vais souffrir. Voilà, c'est
Attends,
tout. Alors justement,
je vais aller mettre
attends,
le like pour toi
on en est à 63, on en est encore bien bien loin. On a 37 minutes de chat et 63 pouces. Normalement, Z, tu pourras
Ah.
rester en tenue légère. On est
J'espère
tranquille.
que vraiment, je compte sur vous, les gens, ou qu'on n'arrive surtout pas aux 200 likes parce qu'il fait un petit peu chaud.
Alors, Enzo qui nous dit, attends. Comme qui tonton balance. Sauf que le problème, c'est que là, je vais voir. Ah, tu parles de joueur. Ah bah Wijnaldum, par exemple, je pense qu'il avait pas. On n'était pas sa priorité et ça s'est vu sur le terrain, non? Voilà. Après, tu te fais ton avis, hein, tu as le droit de pas être d'accord avec moi, mais je pense que voilà. Alors justement, oui, on va mettre en place une ligue FIFA 22 et mon petit gazon. N'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes membre de Paris Central, vous pourrez participer à tout ça. J'en profite, c'est un peu le moment, comme la chaîne est en train de se développer, on essaye de mettre des choses en plus en place en dehors des lives et des vidéos pour bah, monter notre communauté et être plus proche de vous aussi parce que bah, les sujets qu'on fait c'est aussi par rapport à ce que vous nous proposez, ce que vous avez envie de voir en live. Et maintenant je vais recentrer sur le sujet maintenant que j'ai fait le petit instant promo pour évoquer un autre joueur bah, des dernières saisons qui peut justement appuyer sur cette problématique, sur ce questionnement qu'on s'est posé en début de live. Bah, Z l'avait déjà évoqué, c'est Achraf Hakimi. Achraf Hakimi qui a rejoint le PSG pour lequel on a été en concurrence pour le coup et malgré tout on a réussi à le signer. Alors comme le disait Z, est-ce que c'est parce que il savait qu'il était sûr d'être titulaire chez nous avec un bon cadre de vie, avec un bon salaire, dans un club ambitieux et que tu as tout ce qu'il faut qui est réuni pour qu'un joueur ait envie de signer dans son club? Ben, j'ai laissé Z commencer par répondre à cette question et Lionel ira après.
Ben oui, et justement, Achraf Hakimi, c'est parce qu'il y a ce renouveau avec Campos qui arrive à un bon moment. Je reviendrai dessus plutôt en fin de live. Mais Achraf Hakimi arrive avant, arrive d'ailleurs un mercato où il y a pas mal d'arrivées à l'arrivée, hein, notamment avec.
Merci.
Pas mal
Désolé de t'avoir coupé.
d'arrivées, notamment avec.
Nick, ça remet le jingle. Okay, bah. Mais vas-y, Zed, je te laisse poursuivre, il n'y a pas de problème.
Avec en sortant Léo Messi. Et puisque je disais du coup. Ah
On
oui,
parlait d'Hakimi.
il
On parlait d'Hakimi, vas-y.
Après, Achraf Hakimi viendrait parce que Achraf Hakimi, mine de rien, c'est un jeune joueur hein. Et très jeune. Il n'avait pas tant de saisons en pro. Il a une saison à Dortmund, une saison à l'Inter. Alors oui, il surperforme, mais il a encore des choses à prouver. Il est jeune. Et je pense qu'en effet, il y aurait eu un titulaire, par exemple, un joueur de 31 ans, mais qui était bien installé au poste. Je ne suis pas sûr que tu aurais pu attirer Achraf Hakimi.
C'est style à Maxwell à droite, on va dire, pour vulgariser.
Voilà, exactement.
Je vois ce que tu veux dire.
Ouais, je ne suis pas sûr. Peut-être que tu aurais pu l'attirer, mais tu ne mettais pas une place de titulaire. Je ne pense pas que tu l'avais. C'est peut-être la limite qu'on a encore par rapport à certains grands clubs.
Mais après, pour prendre l'exemple d'Hakimi, il ne faut pas oublier que l'année d'avant, quand il est à Dortmund, on se positionne sur lui en concurrence avec l'Inter et qu'il choisit l'Inter au lieu du Paris Saint-Germain. Donc, ça prouve quand même qu'il y a à certains moments quelques difficultés à attirer ce genre de joueur. Paris Saint-Germain.
Alors, ce serait top aussi, les gars, des news sur le centre de formation. Bah, moi, personnellement, je ne travaille pas au centre de formation. Ce que je peux te dire, c'est que, par contre, Zaïre Emery est annoncé pour jouer ce soir. Kerry a prolongé, comme tu l'as vu aussi. Donc, vu que tous les joueurs ne sont pas forcément encore revenus à 100%, il y a moyen, justement, que tu aies quelques jeunes qui jouent ce soir. Donc, pour les intéressés, ce sera sur PSG TV ou sur la chaîne Twitch du PSG, c'est à 17h. Contre Cully, Rouen Métropole.
Il faut être abonné, il me semble.
Si vous avez trois recrues idéales pour le club, ce serait qui pour vous, les gars?
Skriniar, pour commencer. Hein. Skriniar, c'est une
recrue. Oui, il n'a pas signé, donc bien sûr, ce serait une super recrue.
Ness, qui serait une très très bonne recrue si, quand tu veux tenter un milieu à 3, qui serait une très très bonne recrue. Alors après, il y aurait vraiment embouteillage devant. Et sinon, pour moi, la meilleure recrue, c'est le départ de Messi ou de Neymar.
Pour lui répondre à l'ami, j'adore le roi Sané, mais on n'arrivera jamais à aller le rechercher. Mais j'aimerais beaucoup, mais on ne pourra pas le rechercher. Désolé de t'avoir coupé.
Et le roi Sané, pour le coup, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on joue avec des ailiers et on n'est vraiment pas parti pour ça. Mais oui, la meilleure recrue, ça serait le départ de ou Messi ou Neymar.
Ah toi, carrément, pour toi, dans les meilleurs recrues, il y a aussi des départs.
Oui, parce qu'avoir les deux, ça nous met dans une situation où le coach va se retrouver dans une situation où il sera obligé, au moins pour les matchs importants, de jouer avec les deux. Jouer avec les deux, c'est la garantie de ne pas pouvoir avoir la partie haute de ton bloc, de ne pas pouvoir avoir un pressing qui se passera entre le haut. Le pressing passera forcément entre la ligne médiale et la ligne médiane et la ligne de la défense. Et j'arrive pas à trouver le mot qui n'est pas vulgaire. C'est ennuyant. Voilà. C'est ennuyant, c'est contraignant, ça te met dans une situation. Match important, on sait que Neymar ferait l'effort, mais t'as la situation où t'as Neymar qui perd la balle, t'as Messi et Mbappé qui regardent la situation se passer, t'as aucune île haute qui est là pour couper les passes. C'est ingérable. C'est ingérable.
Alors, je vois qu'on a des commentaires qui viennent de partout. J'ai vu qu'on avait des coucous de la Nouvelle-Calédonie. Alors, c'est possible que ce soit des gens qui me connaissent. Si c'est le cas, bah, bonjour à tous. Si c'est ceux de Nifou et de Ouvea, je leur souhaite bonjour à tous. Moi, j'ai des connaissances là-bas.
Qui dit son prénom. Dites le prénom.
Non. Attends. Le bicinard, là, il veut connaître mon prénom, il veut que ça balance mon prénom dans le chat. Non, si vous connaissez mon prénom, ce serait cool de ne pas leur balancer. En plus, dans le dossier Skriniar qui traîne, pourquoi Campos ne tente pas Bremer d'après vous? Peut-être parce qu'il estime que Skriniar est le profil le plus adapté, que Bremer peut-être joue du même côté qu'un autre joueur et que ça poserait problème. Lio ressemble à Fabrice Pancrate.
On vient de la même île, mais mis à part ça, on n'a pas de lien.
Comme quoi, en plus, on te sort plusieurs fois comme quoi, je suis bien d'y répondre. Alors, il reste un mois pour le mercato, tout est possible, et même plus d'un mois. Z, tu arrêtes tes bêtises tout de suite si tu veux pas être bloqué dans le chat. Salut à tous les Parisiens, salut à toi, Zeyou. Alors, je vois d'autres noms aussi un peu moins évoqués, notamment Potores. Potores qui a fait une excellente saison du côté de Villarreal, alors pourquoi pas, c'est vrai que ça pourrait être une piste intéressante. Il y a Thuram et Ekitike, on les a déjà évoqués plus tôt, je vois qu'ils sont très demandés. J'ai vu aussi des noms très Europe de l'Est, hein, comme Milinkovic-Savic, Skriniar, il y en a, ils veulent vraiment des soldats avec des couteaux entre les dents pour aller à la guerre. Je peux comprendre aussi quand on voit la déroute face au Real Madrid. Alors Ekitike, je ne sais pas si c'est que moi, mais je le trouve surcoté. Bah, je pense que c'est le prix qui t'effraie et je peux l'entendre.
Pas moi.
Papa.
Il y a écrit ton nom en gros quand même. Salut à toi, Lassana. Je vous propose, vu qu'il reste que 15 minutes, qu'on recentre un peu plus sur le sujet qui était justement, est-ce que le PSG est devenu plus attractif que les clubs historiques récemment en tout cas? On a cité les cas Mbappé, on a parlé d'Hakimi, on a parlé de Tchouaméni, on a parlé d'Ekitike, de Renato Sanchez. Est-ce qu'il y avait peut-être d'autres exemples là en tête, aussi bien exemples dans notre faveur qu'en notre défaveur hein, que vous avez là qui vous viennent en tête tout de suite. Moi j'en ai, mais.
Avec ma mémoire, j'ai pas tant trouvé, non.
Alors moi j'ai Thiago Alcantara que j'ai tout de suite en tête, hein, parce que j'ai encore le seum qu'on ait recruté son frère à sa place. Hein.
Ah, il n'y a jamais eu de rumeur par rapport à Thiago Alcantara.
Si, 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 si. On a essayé Thiago Alcantara, mais on ne l'a pas eu, et lui il a préféré Liverpool pour le coup, qui est un club historique. Donc je pense que ça va encore dans ce thème. Pourquoi d'après vous Thiago Alcantara aurait préféré Liverpool que le Paris Saint-Germain?
Parce que Liverpool gagnait des lits. Pardon, excuse-moi, Lionel, vas-y.
En fait, moi j'ai une théorie en fait, sur ce type de joueur, ce profil de joueur. C'est qu'à partir du moment où tu as déjà joué au Bayern, au Real, à Liverpool, des clubs qui gagnent sur la scène européenne, je pense que tu as des difficultés d'aller dans un club un peu en dessous. Je pense que tu peux rester que dans ce type de club. Et on le voit avec un joueur comme Lewandowski, qui est prêt à faire des sacrifices pour aller au Barça, mais à mon avis, il ne serait pas prêt à le faire pour venir au Paris Saint-Germain. Donc je pense que c'est plutôt, aujourd'hui, on n'est pas capable de déboucher ce type de joueur dans des clubs qui ont déjà tout gagné, en fait. Ça fait en fait.
Exactement, mais Thiago avait joué au Barça, Bayern, il finit à Liverpool. Je crois que tu sais, il sait sa petite croisade des clubs historiques, il est super
C'est
content dans
ça.
sa tête.
Au-delà des clubs historiques, hein, on parle du championnat où la rivalité est peut-être la plus importante. On parle du championnat qui est le plus suivi dans le monde et on parle du championnat qui est en train de truster les demi-finales de Ligue des Champions depuis 4 ans. Ils y sont tout le temps avec une Ligue des Champions acquise, si je dis pas de bêtises. Enfin bon, bref, Liverpool. Au-delà d'être un club historique, il n'y a même pas besoin de balancer l'argument historique. C'est un club où il se positionne sur toi, tu as envie d'y aller, il y a le championnat, il y a la Ligue des Champions, il y a les meilleurs joueurs, il y a tout qui est réuni. Tu peux pas lutter, quoi.
Oh, j'aime beaucoup cette liste.
Ah, Silva et Bellinger, mais carrément, oui, carrément.
Bernardo, Félix, Bellingham, wow, super liste. Matheus Núñez au milieu de terrain pour compléter. Je vois qu'on a beaucoup de lusophones là dans le chat ou de fans de joueurs portugais. Kalin Phillips à City, Eve est déçue et je pense qu'elle n'est pas la seule, hein, n'est-ce pas Z? Alors, il y a MT, MD, je vais dire MD, désolé, t'as un blas super long, je vais avoir du mal à le prononcer. Son mercato idéal, il propose Skriniar, Renato, Khéphren, Ekitike, Vitinha, Mukiele et Mitchell de Crystal Palace, le Roi Sané. Franchement, je t'aime bien, toi, t'as des bonnes pistes. Hein. Alors, mis à part Mitchell que je connais pas, je valide toute ta liste. Hein. Clairement, j'aime tous les joueurs que tu as proposés. Pour résumer et en exagérant un peu, le PSG est en Europa League en matière d'attractivité.
Non, c'est un peu dur.
Alors, moi, je vous propose ma version de la chose pour répondre à. Vas-y.
Pour Europa League, il y a des clubs qui font des superbes campagnes Europa League qui sont très bien. Et tu vois, tu pourrais, par exemple, tu peux même
Merci David à toi. Je me suis depuis la Guyane. Non, mais on a des gens de plus en plus loin, ça fait plaisir. Vas-y, Z, désolé de t'avoir coupé.
Non, je te dis, c'est pas forcément une insulte de dire Europa League.
Non, moi, je te dirais, tu vois, genre, pour répondre à cette question, je sais pas si on est plus attractif que les autres. Genre, je vais pas mettre non plus trop de voile devant les yeux et faire le supporter, tu sais, trop. C'est trop clubiste. Non, je pense pas que le PSG est à l'heure actuelle plus attractif que tous les autres. Par contre, je pense que tu sais, on est rentré dans cette cour, on est attractif comme les autres. Et que bah, maintenant, tu sais, genre, quand tu as un joueur parmi les top joueurs qui veut un club, bah, tu sais, avant, genre, tu en avais trois qui se bagarraient. Genre, tu devais avoir le Barça, le Real, et selon le temps, soit Manchester, soit le Bayern, soit le Milan, ça dépendait. Et genre, maintenant, pour ce même joueur, tu vas voir Liverpool, Manchester City, United. Tu vas voir, désolé pour ce que j'oublie, Chelsea, Real Madrid, Barça, la Juve, le PSG, donc à 8, et j'en ai peut-être oublié, tu vois. Donc maintenant, pour un même joueur, t'as pas trois clubs qui peuvent se le payer et lui proposer un projet intéressant, t'en as 8. Donc, t'as plus de choix qu'avant. Et je pense que ben, t'as un joueur maintenant, tu sais, il essaye de prendre tout le contexte. Il essaye de se dire, ben, j'ai un salaire agréable parce que ben, une carrière, ça dure 20 ans et il faut que je coffre de côté. Il faut que je puisse être dans un club qui a des ambitions et qui puisse me garantir quand même des trophées pour remplir mon armoire à trophées. Parce qu'il y a des joueurs qui imaginent, ils ont eu des belles carrières, mais ils ont un palmarès vide. Pense à Harry Kane, c'est triste pour Harry Kane d'avoir un palmarès aussi vide que le sien quand tu vois le grand joueur que c'est. Tu as aussi le cadre de vie, parce que je pense que les joueurs aussi, ben, tu sais, quand t'as quand même envie de vivre dans une certaine ville, de te faire quand même un peu plaisir, hein, parce que tu jouis d'un bon salaire et d'une bonne condition, et tu as quand même envie de te faire plaisir quand t'es pas au foot. Donc je pense que quand tu prends tous ces paramètres, T'as qui comme club qui réunit tous les paramètres pour qu'un joueur se sente au mieux épanoui? T'as qui? Allez, t'as Paris, t'as Barcelone, t'as peut-être aller un club de Londres comme Chelsea qui peut proposer un cadre de vie super intéressant. Manchester City, c'est un super club, mais est-ce que tu as envie de vivre dans la ville de Manchester? C'est genre, t'as des questions qui se posent vis-à-vis de tout ce cadre, tu vois. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que pour moi, tu as un ensemble de cadres qui est pris en compte et qui n'étaient pas forcément vus ensemble avant, tu vois.
Moi, je pense que en fait, je pense que Campos est arrivé au bon moment. Je pense que Paris est sorti d'une finale de Ligue des Champions, d'une demi-finale de Ligue des Champions, qui même si peut-être on peut contextualiser, notamment avec la finale, le Final Eight, etc., etc., a apporté une légitimité après laquelle Paris courait. Mais on n'a pas encore gagné la Ligue des Champions, n'est pas encore, même si la Ligue 1 devient de plus en plus attractive, tout le monde parle de la Farmer League, mais il y a de plus en plus de coachs intéressants qui signent, il y a de plus en plus d'initiatives de coachs français qui sont en train de développer des choses intéressantes, je pense à Guy Stéphane, etc. Enfin, il y a vraiment des choses très très bien qui se passent. Mais voilà, on n'est pas à la première ligue, en Ligue des Champions, on est d'une certaine manière un newcomer qui est installé, mais qui Et il y a des choses qui se passent. Et là, Campos est arrivé et tu as un nouveau discours qui arrive aussi. Et notamment, c'est ça la news qui est tombée sur Skriniar aujourd'hui, qui est que le Paris a l'intention, par Skriniar, de montrer qu'il n'a plus l'intention d'être la vache à lait de tout le monde. Il y a quelque chose qui évolue à ce niveau-là. Tu peux le voir dans les négociations avec Ekitike. Tu peux le voir dans les négociations avec Renato Sanchez, où Lille veut vendre plus cher à nous qu'au Milan AC. Et nous, on dit juste no way, etc., etc. Et il y a quelque chose qui change. Et je pense que les joueurs le ressentent. J'ai l'impression que, et là, pour le coup, c'est vraiment Campos. J'ai l'impression que les jeunes ou les prospects tout juste confirmés se disent qu'ils vont vraiment avoir une chance. Donc il y a quelque chose qui évolue dans le bon sens. Maintenant, pour qu'on se compare avec les historiques, parce que c'est la question, mais au-delà des historiques, les clubs hôtes du moment, il nous manque encore d'aller confirmer justement avec cette logique-là. Mais tu confirmes avec cette logique-là, tu y arriveras. On n'y est pas encore tout à fait, mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Voilà.
Alors attends, je vois le commentaire de Ross, je suis obligé de l'arrêter. La Ligue 1 n'est pas attractive. Qui veut jouer dans un championnat gagné en avance, même en jouant à 50%. La Ligue 1, attends vraiment, sur les 10 dernières années, hein, j'ai de mauvaises fois, il y a qui a été champion? Il y a Montpellier, il y a Paris, il y a Lille, il y a Monaco. Ça fait 4 champions, on est d'accord. En Italie, il y a eu la Juve, l'Inter, l'AC Milan. En Espagne, il y a eu l'Atlético, le Real, le Barça. En Allemagne, il y a eu le Bayern et allez, Dortmund, une saison en 2012. En Angleterre, tu as eu Chelsea, Leicester. En fait, il n'y a que l'Angleterre qui a eu plus de champions que nous. Donc, en fait, je ne suis pas d'accord avec toi. Il y a beaucoup de championnats qui sont joués en avance chaque année et pourtant, ça n'empêche pas des joueurs d'y signer.
Et pour aller dans son
17 heures pour le match d'aujourd'hui, du PSG pour répondre.
pour aller dans son sens, c'est une chose de regarder le premier, de rager contre le premier, mais ça t'empêchera pas forcément de, si on a vraiment la motivation, d'apprécier ce qui se passe en Ligue 1, d'apprécier ce qui se passe sur le terrain, parce qu'il se passe des choses très intéressantes sur le terrain. Tout le commentaire, la Farmer League, machin, bidule chouette, ouais, ça fait 5 ans qu'on l'entend, mais il y a un moment où il faut juste ouvrir les yeux et regarder ce qui se passe autour de soi, je pense.
Bien sûr, alors on va pas commencer à dire que la Ligue 1 est le championnat à suivre, hein, tu vois. Non,
Non.
par contre, dire que c'est la même Ligue 1 qu'il y a 10 ans, non, je suis désolé, les gars, je suis d'accord avec vous qu'il y a une vraie évolution dans ce championnat. Je vois qu'on a. Vas-y, Lio, tu voulais peut-être rajouter quelque chose sur le sujet.
Mais en fait, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport aussi à la prolongation d'Mbappé. Je pense que ça envoie un vrai message, parce que comme je le disais au début du chat,
Ouais, comme c'était dit
c'est-à-dire
dans le
que
chat aussi. Ouais.
c'est que Mbappé, c'est un joueur qui recentre tout autour du sportif. Et donc, quand tu réussis à prolonger ce joueur-là, ce qui est en fin de contrat, ça veut dire que le Paris Saint-Germain propose un projet sportif qui est très intéressant et qui va montrer sous les prochaines années qu'ils vont tout faire pour aller remporter cette Ligue des Champions. Et je pense que ça, pour n'importe quel joueur, ben, ça donne envie de venir. Quand tu gardes Mbappé, forcément, tu augmentes l'attractivité de ton club aussi.
Alors, je vois quelques questions dans le chat. Ouais, Nix nous a quittés, donc c'est moi qui vais gérer le chat. Il y a la Sana qui nous demande quand t'es à Paris, c'est comment c'est mort ou c'est possible? Alors, c'est mon avis, je ne vais pas te dire que j'ai des infos. C'est mort. Il ne veut pas revenir parce que bah, t'sais, c'est lié à son entourage. S'il n'est jamais revenu en Île-de-France, c'est lié à son entourage. Et comme j'ai déjà fait une vidéo avec Barry à ce sujet, les joueurs qui ont préféré jouer dans d'autres clubs et ils ont eu leur raison et ils ont le droit de jouer dans d'autres clubs, il n'y a pas de problème. Hein, ils jouent dans d'autres clubs, ils se régalent. Mais par contre, quand ils sont plus en odeur de sainteté dans leur club et qu'on leur sert de bouche-trou, non merci. Je préfère aller signer des. des joueurs plus jeunes avec une marge de progression et qui, eux, ont envie de venir chez nous et de se battre pour leur progression et pour leur carrière plutôt que des joueurs qui ont déjà tout gagné. Hein, parce que Kanté, il a tout gagné, on va pas se mentir. Qu'est-ce qu'il aurait comme motivation supplémentaire à venir chez nous? J'en vois pas. Donc, ça revient sur ce que je te disais plus tôt. Je préfère l'honnêteté d'un joueur comme Tchouaméni qui préfère aller jouer autre part et qui va se donner à fond là où il va jouer qu'un joueur qui vient chez nous pour les mauvaises motivations et qui va pas s'investir. Tout simplement. Parce que Kanté, en venant, il va prendre une place, il va prendre un certain salaire et il va piquer la place d'un autre joueur qu'on aurait pu prendre à sa place et qui, lui, peut-être, aurait pu être, nous être vraiment plus utile.
Et pour Kanté, pour rebondir, sa saison, la dernière saison, n'est pas aussi top
que... Il se blesse de plus en plus.
Il est de moins en moins actif sur le terrain. Alors, ça ne veut pas dire que c'est devenu un mauvais joueur, mais on n'est plus très loin de la saison de trop pour Kanté. Elle ne sera peut-être pas l'année prochaine, mais dans 2 ans... Il y a vraiment des chances qu'on soit dans la saison de trop. Et Kanté, c'était un joueur qui était très intéressant, mais c'est plus le présent, en fait, tout simplement.
Je pense que notre ancienne direction avec Leonardo l'aurait signé. Mais pas Campos. Je pense que Campos ne le signera pas. Justement, pour voir à peu près aussi où on en est dans les commentaires. Sinon, on aurait au top de l'image Rudiger, Christensen, Kessié serait venu gratuitement. Thiago, pareil. Kroos, je pense qu'il veut dire pour 25 millions quand il part au Real, plutôt Kronos. Lewandowski, pareil, qui a rejusté Chelsea et nous. Ouais, aussi. X-Alpha qui nous dit, si on parle de recruter Lewandowski, je propose de prendre Ronaldo 1 an. Ouais, mais là, en fait, tu rétropédales 5 ans en arrière. Je veux dire, notre projet, c'est justement d'être dans l'avenir, dans le futur. C'est d'arrêter de faire ces transferts de joueurs pour qui, excuse-moi de le dire, j'estime que c'est trop tard. Je veux dire, Ronaldo, il y a 3 ans, il y a 4 ans, ok. Même l'été dernier, à la limite, tu l'aurais pris à la place de Messi, pourquoi pas. Mais ouais, non, je n'ai pas envie d'être le club qui le prend pile au mauvais moment. Alors, il y a David qui nous pose une vraie question, qui dit « Vous pensez quoi de la situation de Michu ?» Ben écoute, Michu, je peux comprendre qu'il était déçu de ne pas avoir du temps de jeu pendant tout ce temps. On lui a fait des promesses qui n'ont pas été tenues et je peux entendre que ça l'a énervé. Par contre, la direction qui lui a fait toutes ces salades, ben, elle n'est plus en place. Il y a un nouveau directeur sportif. Ce directeur sportif l'a convoqué pour parler de sa situation, pour peut-être voir avec lui est-ce qu'il voulait partir ou non, est-ce qu'il voulait être prêté ou non. Il a préféré jouer à Mario Kart. Eh ben, qu'il se plaigne pas s'il a des sanctions derrière, tout simplement.
Je peux réagir, tonton, là-dessus.
Vas-y, Zed, avec plaisir.
Michoud, bah, tu l'as rappelé, il y a eu plusieurs entourloupes qui ont été faites la saison passée. Et là, il y a eu un événement qui est tout bête, c'est que pas mal de jeunes ont été convoqués pour la reprise le premier jour et Michoud faisait partie de la catégorie des jeunes qui étaient convoqués pour la deuxième à partir de la semaine suivante. Donc, il faisait pas partie des jeunes qui étaient repérés, etc., etc. Et si tu mets ça en relation avec les promesses qui avaient été faites l'année précédente, tu peux comprendre. Il n'est pas venu pour jouer à Mario Kart. Il n'est pas venu par choix et délibérément. Alors après, une fois
qu'on s'affichait sur Instagram en train de jouer à Mario au bon moment.
Je finis. Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on est dans une situation en plus où Campos a envie de marquer son territoire et donc il va servir d'exemple. Je trouve que c'est du gâchis puisque c'est un joueur qui avait de l'intelligence footballistique, à défaut d'être post-formé, il avait encore beaucoup de choses à apprendre. Mais il va servir d'exemple et la seule chose qu'on peut dire, et c'est malheureux, mais c'est qu'il l'a bien cherché, quoi.
Bien sûr. T'en penses quoi, toi, Lionel, justement ?
Non, je pense que ça tout dit. Je pense que c'est un joueur qui a de grandes capacités. Après, il y a Campos qui l'a convoqué. Il aurait dû ravaler sa fierté, venir à la convocation. Mais bon, il a voulu faire un autre choix. Il l'a payé. Je pense que c'est bien que Campos l'ait sanctionné pour montrer que voilà, aujourd'hui, ça ne se passera plus comme ça.
Alors justement, je pense que Ross a voulu corriger son commentaire. Il est déjà bien plus adapté. Il disait justement, si seulement il y avait un autre club attractif en Ligue 1, en Italie, tu en as plusieurs. En Espagne, il y en a 2 ou 3. En Allemagne, le Bayern manque de concurrence, mais les outsiders sont réguliers. Ça, je suis d'accord avec toi. En Ligue 1, on n'a pas de concurrent régulier qui fait 3 ans de suite deuxième. Ça, ouais, on est complètement d'accord. Mais sur les champions, tu as bien vu qu'au final, on en a plus que les autres. Il n'y a que l'Angleterre qui en a plus que nous parce que... Bah, c'est l'Angleterre, tu vois. Aloun nous demande pourquoi on ne recrute pas dans le centre de formation. En plus, il y a des monstres. Bah, on n'est pas l'Ajax, on n'est pas le Sporting, on n'est pas le BVB Dortmund. Et je te pose la question, il y a combien de joueurs formés au club titulaire au Real Madrid aujourd'hui ? Voilà. Donc, à un moment, ce n'est pas parce que tu le fais que ça marche forcément et que ça gagnera. Je peux comprendre que des clubs comme le Barça te donnent envie d'imiter ce modèle, mais peut-être que si on ne le fait pas, c'est parce que ce n'est pas l'objectif du club et qu'on n'a pas les joueurs pour y arriver parce que il y a un autre commentaire très intéressant qui répond un peu à tout ça, qui disait que les attractivités de Bayern, du Barça et de ce genre de club étaient liées aussi que tu aies une identité de jeu établie d'avance. et une vraie identité de jeu qui est commune au club. Et forcément, quand les joueurs y signent, ils savent déjà comment ils vont y jouer. Et au PSG, ce n'est pas encore le cas. On n'a pas encore cette identité de jeu marquée PSG. Et je pense que l'arrivée de Campos et le fait qu'on redessine le projet et qu'on recrute des joueurs jeunes, ça va dans ce sens. Parce que les joueurs jeunes, ils sont malléables. Tu peux leur apprendre des choses. Tu peux tu sais, les faire jouer dans des systèmes encore différents. Parce que tu peux les faire évoluer.
Le Bayern de Klopp et le Bayern de Heynckes n'ont pas grand-chose à voir, hein, ceci. Le
Le
Bayern
Bayern de Klopp?
de Klopp, le Bayern de Guardiola et le Bayern de Heynckes n'ont pas grand-chose à voir, ceci.
Bah oui, après Guardiola, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est Lovnik qui a été recruté pour essayer justement d'amener quelque chose de différent et de nouveau à ce Bayern. Ça n'a pas marché, ils sont revenus aux bases.
Non, parce qu'Icon, c'est justement c'est le Bayern d'avant, mais depuis que Guardiola est passé, on n'est plus jamais revenu vers le vers le vers le vers
Vers le
le
4-2-3?
les frappages des 30 mètres, le jeu très réaliste et très direct. C'est plus le cas au
Oui,
Bayern.
parce qu'après, tu n'as plus recruté les joueurs de ce style de jeu-là, mais Jupp Heynckes est revenu au Bayern
C'est que par rapport à
après
la
Guardiola.
par rapport à la remarque, on parle de club. Enfin, quand on parle d'identité de jeu, on parle de l'identité de jeu qui est comprise. On ne parle pas d'une identité de jeu qui dure forcément depuis 20 ans. C'était juste pour amener ce bémol.
Je vois qu'on est 300 dans ce live et qu'on vient d'atteindre l'heure de jeu, si on peut le dire comme ça. Justement, si vous êtes nouveau dans l'aventure, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner, ça nous aide beaucoup pour le référencement. Ah bah désolé Z, tu ne pourras pas mettre ta doudoune du coup, l'objectif des 200 pouces n'étant pas atteint, tu vas pouvoir rester dévêtu. Alors il y a Monsieur Choupachou qui me demande de parler de Kefren. Alors on en a parlé plus tôt dans le live, désolé si t'étais pas là, c'est pas grave. Il se trouve qu'on a déjà une vidéo qui traite du sujet si tu veux sur la chaîne. Je t'invite à dérouler sur la chaîne, tu tapes Kefren Thuram dans Paris Central, tu arriveras à retrouver la vidéo et comme ça tu auras justement l'avis de ce qu'on pense de Kefren Thuram dans l'équipe Paris Central. On suit même depuis l'île de la Réunion, mais c'est incroyable, on commence à avoir des gens qui viennent de partout et de plus en plus loin, ça fait vraiment plaisir. Et oui, Eve, l'objectif sera peut-être atteint, mais après le live en tout cas. Je regarde justement si on est à jour au niveau des commentaires. Vas-y, Lio, tu voulais
Si
rajouter
je peux
quelque chose?
rajouter quelque chose, c'est que
Bien sûr.
il y a un truc à prendre en compte, c'est aussi les infrastructures. Je pense qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain n'a pas encore son centre d'entraînement qui est totalement terminé. Quand on va avoir notre nouveau centre de performance, je pense qu'on va prendre un gap assez intéressant sur notre attractivité. Quand on voit le centre d'entraînement du Real, du Barça, du Bayern, même du Milan AC, c'est quand tu rentres dedans, ça te fait rêver. Aujourd'hui, le camp des loges, ça ne fait rêver personne. Mais à mon avis, l'an prochain, quand on va déménager dans notre nouveau centre d'entraînement, là
Impossible.
encore, ouais, on va rajouter encore un peu plus d'attractivité à notre club.
Pour répondre à Scander, la vidéo est en tournage. Dès qu'elle sera sortie, tu pourras te connecter sur la chaîne. Si t'es abonné, tu auras la notification et comme ça, tu sauras qui est Gonzalo Ramos. Ferland Mendy, Dural, t'en penses quoi? Non, merci, on a Nuno Mendes. Et je m'exprimerai pas sur le monsieur. Renato, c'est en stand-by. Alors non, je pense juste que ben, tu sais, ça s'appelle le bras de fer. Paris ne veut pas payer plus qu'une certaine somme. Lille préfère le vendre à Milan, mais Renato préfère nous rejoindre. Donc, on verra qui va gagner. Oui, exactement. Mettez un pouce sur le live si vous voulez voir Kurzawa quitter le club. Comme ça, vous pourrez voir Z en doudoune. Ah, on a aussi des fans depuis le Québec. Ça fait plaisir. Alors, FQ dit, au fait, CR7, rumeur au PSG, peur que Nasser retourne sa veste, tonton. Non, t'inquiète. Maintenant qu'il y a Campos au club, je pense qu'avec Leonardo aurait obéi à Nasser, il l'aurait fait, mais maintenant, vous inquiétez pas, tout va bien. Abonnez-vous pour plus de live. Oui, on en fait deux fois par semaine, tous les lundis, tous les vendredis sur Paris Central. On est à 13h. On a aussi une deuxième chaîne, si ça vous intéresse, qui ne parle pas que du PSG, qui parle du foot en général, qui s'appelle Foot Central. Où pareil, on fait des lives le mardi et le jeudi à la même heure, 13h toujours pour les disponibles. Etiquité est-il un bon choix du PSG? Alors, on y a répondu un peu plus tôt. Je t'invite à rembobiner le live quand il sera fini, quand tu auras du temps pour le faire. Et là, je vois que les commentaires sont hyper nombreux. Stop ou encore pour Sarabia, on a déjà répondu justement dans une vidéo dans la chaîne. Et je vois que justement, on a beaucoup de questions dans le chat qui sont des questions auxquelles on a déjà répondu. Donc, je vous invite, quand le live sera fini, à rembobiner le live. Et comme ça, vous aurez les réponses justement à toutes ces questions. Je vois qu'on a fait plus d'1 heure et qu'on est 298 en live. Merci à tous de nous avoir suivis pendant toute cette heure. Merci à Z d'avoir été avec nous. Merci à Lio aussi d'avoir été avec nous. Pendant cette heure de live, n'oubliez pas de mettre un petit pouce si ce n'est pas encore fait dans le live et de vous abonner si vous êtes nouveau dans l'aventure. Merci à tous d'avoir été avec nous. À lundi sur Paris Central et même à demain midi en live avec Nyx. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris.
Ciao tout le monde.
Ciao.